France Culture, avoir raison avec Maria Montessori, par Louise Touret.
Épisode 3, une pédagogue dans le mouvement, Maria Montessori et l'éducation nouvelle. Maria Montessori n'est pas la seule à avoir promu une autre manière d'éduquer, ni à avoir pensé une manière de faire l'école autrement au début du XXe siècle. La pédagogue s'inscrit dans ce qui reste à ce jour une révolution pédagogique sans égale, l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle fut une véritable galaxie, une nébuleuse, disent certains, avec des penseurs très différents. Dewey aux USA, Alexander S. Neill en Écosse, Makarenko en Union soviétique, Ferrer en Espagne, De Croly en Belgique et bien sûr, Freinet en France. Tous ces gens se sont croisés à l'occasion de plusieurs grands congrès internationaux. À l'époque, ces événements pouvaient durer jusqu'à 2 semaines. Alors, quels ont été leurs échanges? Et surtout, pourquoi Montessori se retrouve-t-elle à être celle dont le nom a le plus traversé le temps? Mais d'abord, Sylvain Vagnon, qu'est-ce que l'éducation nouvelle?
L'éducation nouvelle, c'est un mouvement de rénovation pédagogique européen. Donc on connaît effectivement des figures, Maria Montessori, mais aussi en Belgique, Ovide de Croly et Célestin Freinet et Élise Freinet, hein, qui est aussi importante en France. L'objectif, on va dire, majeur pour eux, c'est ce qu'ils appellent avec une ambition énorme, hein, une révolution copernicienne. C'est-à-dire que c'est l'idée de renouveler véritablement, pas de faire table rase, mais de retourner la table, on va dire, et de dire que justement le plus important dans l'éducation, c'est pas la transmission simplement de savoir, c'est pas simplement un maître qui sait tout avec des élèves qui vont apprendre comme ils peuvent, mais au contraire, c'est partir de l'élève et d'en faire un véritable acteur de ses apprentissages.
Alors, qu'est-ce qui fait le lien? Moi, j'ai noté deux aspects qui me semblent importants. L'idée d'éducabilité de l'enfant et puis aussi celle des méthodes actives, c'est-à-dire de faire des choses pour que l'enfant construise, co-construise peut-être son savoir.
Bah, la difficulté, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Hein, si on prend Montessori ou De Croly, c'est des médecins. Donc le fait que ce soit des médecins, ils s'intéressent de façon assez clinique en réalité à l'enfant. C'est pas vraiment des pédagogues d'entrée de jeu. Et ils vont faire des tests, ils vont vérifier, ils vont observer beaucoup hein, ces enfants. Souvent d'ailleurs des enfants, on va dire, porteurs de handicap. Pour eux, c'est important aussi de partir de ça. Parce que justement, c'est des enfants qui sont justement plus fragiles, qui ont des difficultés, qu'on laisse de côté aussi. Et ça, c'est important parce que ces pédagogues s'intéressent justement aussi à ces enfants, on va dire, abandonnés, hein, où on ne pense pas qu'ils puissent être éducables. Et eux, au contraire, vont montrer. Alors là aussi, j'appuie beaucoup sur Montessori et De Croly parce qu'ils sont finalement de la même époque, ils vont faire la même chose, mais sans se connaître véritablement. Ils vont faire une école chacun en 1907. Et tous les deux, en fait, s'intéressent justement à observer la nature enfantine. C'est-à-dire de voir un petit peu qu'il y a une volonté, en tout cas, il y a une force chez les enfants, et quelles que soient justement des difficultés qu'ils peuvent avoir. Et donc cette éducabilité de tous est véritablement un point commun entre tous ces pédagogues.
Sylvain Vagnon, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Vos travaux explorent l'histoire et l'actualité, parce qu'il y en a une de l'éducation nouvelle, libertaire et les pédagogies alternatives. Vous êtes historien, et dans cette histoire de l'éducation nouvelle, il y a des racines qui plongent très profond, bien avant le 19e siècle.
J'allais dire, les racines, elles sont presque antiques, mais là, on va dire que les références connues, et de référence, en tout cas, de ces pédagogues d'éducation nouvelle, c'est déjà Rousseau. Pour eux, c'est vraiment une clé, parce que justement, on peut penser ce qu'on veut, en tout cas, de Rousseau. On voit que cette idée d'un statut de l'enfant, d'un enfant aussi à prendre en compte avec ses caractéristiques propres, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais, pour être plus clair peut-être, c'est l'autre référence, les grandes références, en tout cas pour tous ces pédagogues, c'est aussi des médecins. Et notamment Itard, qu'on connaît justement par l'enfant sauvage, hein, on connaît le film de Truffaut, mais cette idée, d'ailleurs il y en avait beaucoup à l'époque au 18e, justement des enfants abandonnés, hein, et c'est important, et Itard est un médecin qui prend cet enfant et qui va essayer de l'éduquer. Et pour eux, c'est une vraie référence. D'ailleurs, Montessori le cite directement dans son premier ouvrage, De Croly aussi, en estimant que là, c'est... Alors, Itard, c'est une expérience pédagogique un peu idéalisée, hein, parce que on le voit bien d'ailleurs dans le film. Bon, il essaye de donner une éducation bourgeoise à cet enfant, hein, ici, abandonné. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, il croit à l'éducabilité de tous. Et donc, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est un élément vraiment clé pour eux, c'est que non seulement tous les enfants ont le droit de l'éducation, mais ils peuvent être éduqués. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est des références extrêmement fortes. On a d'autres références, et plusieurs fois, là, c'est le courant libertaire qui s'intéresse justement aux enfants, qui appartient aussi un petit peu à l'éducation nouvelle. Alors, pour eux, c'est aussi un élément important, c'est l'émancipation individuelle et collective, et émancipation qui passe par justement l'éducation. Et là aussi, les références sont extrêmement intéressantes parce que ces pédagogues, et plutôt, là on peut penser à Paul Robin au 19e siècle, qui est quelqu'un qui pense à une éducation intégrale. C'est-à-dire qu'il pense que finalement, c'est d'ailleurs pour lui très politique, c'est de dire qu'on a une tête, et donc on va apprendre évidemment des choses intellectuelles, mais on a aussi un corps, et donc ce corps, il faut le mettre en action. Et puis on a aussi des émotions. On a un cœur, et ça aussi, c'est l'ensemble qui forme cette éducation intégrale. Et là, on a peut-être une colonne vertébrale, vraiment, de ce que va être l'éducation nouvelle.
Et qui va chercher encore plus loin dans l'histoire de la pensée occidentale, parce qu'on peut penser à l'humanisme, on peut penser à Montaigne, à l'idée de l'être humain qui se perfectionne, qu'on retrouve après chez des pédagogues au XVIIIe siècle. Et puis après, je pense aussi à Pestalozzi, qui est une grande référence de l'éducation nouvelle.
Tout à fait. Les humanistes, on va dire, sont une référence évidemment majeure. Pourquoi ? Parce que déjà, ils replacent l'individu au centre de la discussion et pas simplement Dieu. Donc déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fort. Et qui s'intéresse à l'éducation, c'est pour ça que les humanistes, évidemment, sont une référence forte, qui s'intéresse à l'éducation veut, on va dire, transformer un individu. C'est ça qu'il faut voir. C'est que c'est vrai que le Moyen-Âge, j'allais dire qu'un paysan espère que son fils va être paysan, il va lui apprendre à être paysan, il va lui apprendre exactement tout ce qu'il faut, et ce qui est déjà très bien. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit comme soi. Alors que là, les humanistes essayent de montrer aussi quelque chose, c'est que par l'éducation, on va s'émanciper, se transcender en tout cas, vers quelque chose d'autre et qu'on sera complètement changé. Et ça, c'est évidemment une révolution copernicienne.
Vous avez parlé du fait que Maria Montessori était médecin. C'est une des trois premières femmes médecins d'Italie. Évidemment, c'est une particularité qui n'échappe pas à ceux qui font l'histoire de l'éducation nouvelle. En fait, on a rencontré plusieurs, Sylvain Vagnon, parce que je me suis rendue comme vous au congrès du CUIP ou du CUIP fin juin 2023 à Paris. J'ai suivi plusieurs conférences passionnantes, dont celle de Bernard Schneveli, qui est professeur honoraire à l'Université de Genève, ancien doyen de la Faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, et Philippe Mérieux, spécialiste de la pédagogie. Ils ont répondu à mes questions sur la place de Maria Montessori dans l'éducation nouvelle, l'éducation qui émerge réellement à la fin du 19e siècle.
D'emblée, de très nombreux enseignants s'organisent, se mettent en association et réfléchissent sur cette école-là. Ces associations sont une espèce de corps de pensée de l'éducation, et à partir de là, il y a de nombreuses initiatives qui émanent des enseignants. Alors, un exemple que j'ai donné, celui de Hambourg, qui est particulièrement intéressant, où ils ont réussi, à travers un travail acharné aussi de réflexion, à un certain moment, de forcer, on pourrait dire ça comme ça, l'État de Hambourg, de permettre des expériences à grande échelle d'éducation nouvelle. C'est un exemple. Il y a ici, au début du siècle, notamment avec le mouvement de la pédologie, énormément de personnes, et de médecins notamment, qui s'intéressent à la question du développement de l'enfant, et puis à son éducation. Et donc Montessori, de ce point de vue-là, n'est pas du tout une exception. C'est pas non plus la règle, mais c'est quelqu'un qui est ici tout à fait dans la lignée de quelque chose qui se passe au début du siècle, de réflexion de la nécessité de reprendre, notamment aussi, et ça c'était très important à cette époque-là, l'éducation de personnes, d'enfants en difficulté.
Maria Montessori occupe une place particulière et en même temps assez centrale dans l'éducation nouvelle, parce que elle est au carrefour de toute une série d'influences qui ont construit l'éducation nouvelle. L'anthroposophie, la théosophie. Elle est théosophe à l'origine, Maria Montessori. Et la théosophie s'engage très fortement dans l'éducation nouvelle. Les grands personnages de la théosophie vont participer au congrès de Calais en 1921. Ensuite, elle est médecin. Elle est médecin et elle s'occupe d'enfants qu'on appelait à l'époque arriérés. Et elle hérite elle leur rend d'ailleurs hommage, elle hérite de toute une série de travaux, les travaux de Pinel, les travaux de Itard, travaux qui lui paraissent essentiels parce qu'ils renvoient à l'éducabilité de ces enfants arriérés, inadaptés, qui étaient mis au banc de l'école jusqu'à présent. Et puis, c'est aussi une pédagogue au sens où c'est presque une femme d'affaires. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, très tôt, va prendre des initiatives de contact avec les politiques, de contact avec même des industriels qui vont fabriquer du matériel, etc. Et donc, elle réunit toute une série de qualités qui font d'elle une personnalité assez forte dans cette galaxie, dans cette nébuleuse de l'éducation nouvelle. Forte et en même temps fragile. Fragile parce que elle va s'opposer très tôt à un certain nombre d'autres pédagogues. Et évidemment, son opposition la plus importante et la plus célèbre est celle avec Célestin et Élise Freinet.
Alors, on va revenir, Sylvain Vagnon, aux oppositions dans un instant. Le côté femme d'affaires, ça, c'est pour l'épisode 4 de cette série « Avoir raison avec Maria Montessori ». Mais la question qui se pose tout de suite, je pense, c'est cet ancrage double de l'éducation nouvelle, à la fois dans la science, on a parlé des médecins, mais aussi d'un certain ancrage dans ce qui peut s'évaluer et se mesurer en termes de résultats. Et puis, une spiritualité, à l'instar des théosophes qui ont beaucoup adhéré au mouvement Éducation Nouvelle, participé au congrès, et cette spiritualité, elle est présente chez Maria Montessori, qui est très catholique.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est aujourd'hui, ça nous apparaît un peu paradoxal, ou en tout cas un peu complexe. Pour l'époque, c'est pas que ça soit plus logique, mais il faut penser que les grands scientifiques sont aussi ceux qui vont s'intéresser énormément à la spiritualité. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des mélanges qui peuvent se faire, hein. Je veux dire, on voit des grands scientifiques qui essayent de faire tourner des tables au 19e siècle, c'est quelque chose d'assez classique. Et donc là, en vérité, ce qui est appelé souvent, c'est ces théosophes, hein, c'est des personnages très particuliers, quand même. Faut quand même voir que celle qui dirige la théosophie, c'est Annie Besant, c'est une féministe, c'est une personnalité extrêmement forte, hein, du mouvement aussi libre penseur. Et pourtant, elle est, en vérité, dans un mouvement qui prône une espèce de dépasser le catholicisme, aller aussi vers des influences de l'Inde, etc., etc. Donc, elle va introduire le yoga en Europe. Enfin, bon, donc, il y a une espèce de mix qui nous apparaît un peu particulier. Maria Montessori est typiquement dans cet ensemble. Les théosophes, en vérité, vont même être les initiateurs du premier congrès. C'est eux qui pensent, justement, parce que ils pensent qu'il faut préparer aussi une éducation différente. Et donc, ils pensent que l'union de ces éducateurs est nécessaire. Et donc, ils proposent, en vérité, aussi des points d'accroche. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. C'est pour ça que je parle du premier congrès qui est à Calais en 1921. C'est que le thème, c'est la puissance créatrice de l'enfant. Et ça, ils ont trouvé ce thème parce que justement, ils trouvent que c'est fédérateur. Qu'est-ce que c'est que la créativité? C'est quelque chose qui est extrêmement complexe à développer comme ça. Un laïc va s'y retrouver, mais quelqu'un qui est dans une certaine spiritualité va s'y retrouver aussi. Et donc, c'est une recherche aussi de relier, hein, des thèmes qui nous apparaissent en tout cas comme presque des doctrines contraires. Il y a un scientisme très fort de ces gens, hein, avec une volonté de faire des tests mentaux, etc., pendant le 19e et le 20e siècle. Puis de l'autre côté, il y a un côté un peu cet enfant, d'où vient cette force, d'où vient cette ambition, d'où vient cette créativité. Et là, des volontés, des certaines fois, hein, de mouvements qui cherchent une visée un peu, on va dire, spirituelle au sens large, hein, pas tellement religieux, mais spirituelle. Donc c'est vrai que ça fait un espèce de patchwork un peu particulier, qui explique d'ailleurs pourquoi l'éducation nouvelle n'est pas un courant monolithique, mais au contraire, certes une nébuleuse, une galaxie, ce qu'on veut, en tout cas, une mosaïque, hein, de courants qui ont des incidences un petit peu différentes.
Des incidences différentes, mais un fort désir de se réunir, comme dans ces congrès, la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, ça fait le lien en français, est créée donc en 1921, lors du congrès de Calais. Ces congrès durent des jours et des jours, hein. C'est pas deux jours de conférence, trois semaines, c'est tout de même très long. On peut retrouver des photos où on voit ensemble, hein, John Dewey, Ovid de Croly, Jean Piaget, Maria Montessori, par exemple Adolphe Ferrière et Elisabeth Rotten, c'est extraordinaire de voir ces documents. Que se passe-t-il dans ces congrès ?
C'est vrai que ces congrès sont vraiment intéressants parce que ça dure longtemps. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde reste les 3 semaines. Hein. Par exemple, à Calais, ça dure 3 semaines. On entrechoque en tout cas à la fois des conférences, on va dire, de niveau extrêmement fort avec les grands pédagogues de l'époque. Hein. Et puis, de l'autre côté aussi, on a de la musique, on a de la danse. Parce que justement, l'éducation nouvelle, c'est aussi ça. Hein. C'est par exemple Dalcroze, hein, qui est un pédagogue, quand même, il y a des instituts Dalcroze dans le monde entier qui montrent l'alliance entre la musique, par exemple, et le corps, hein, quelque chose d'important. Donc, il y a des danses, il y a aussi du théâtre. Il y a des visites aussi à la plage, enfin, etc., à Calais. Enfin bon, il y a tout ça. Puis il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque. 1921, c'est quand même juste après la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une rupture terrible. C'est pour tous ces pédagogues aussi une volonté de, comme d'ailleurs aussi une partie du personnel politique, changer la société. Ovid de Croly, son discours à Calais, c'est « il faut changer vers un moment tout, puisque nous sommes allés au bout de l'ignominie, nous sommes allés à cette guerre qui est fratricide, et donc il faut changer aussi l'éducation, puisque l'éducation, c'est transformer la société, et c'est le seul moyen pacifique pour transformer la société. » Donc le fait qu'on se retrouve en 1921, hein, c'est juste après la Première Guerre, mettre ensemble aussi des Européens qui viennent d'un peu partout, c'est déjà un challenge énorme, hein, déjà, de se mettre là. Et en plus, les mettre pendant des semaines, c'est aussi permettre un véritable réseau de sociabilité. C'est-à-dire que ces gens vont pouvoir effectivement manger ensemble, discuter ensemble, etc. Et donc, on voit bien que des liens, je l'ai fait pour De Croly dans sa correspondance, on voit bien très très bien que ces congrès sont des moments d'amitié, hein, certaines fois, par exemple, lui avec la Parède, enfin, des personnalités qui vont se retrouver une génération aussi, hein, qui va se retrouver et qui va connaître, en tout cas pendant 10-20 ans, la volonté et avec l'idée, l'ambition de transformer complètement le système. Je crois qu'aussi ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'éducation nouvelle, on va parler d'école, d'expérience, etc. Mais attention, l'idée, c'est changer complètement le système. Là, encore une fois, Montessori comme De Croly font un livre très général où il propose, en vérité, un changement radical pour tout le pays. Donc ça aussi, c'est ça l'éducation nouvelle, hein, c'est repenser pour tous, hein, cette école.
Et un regard complètement différent sur l'enfant en ce qui concerne Maria Montessori, puisque ça fait partie de ses textes fondateurs, c'est revoir l'enfant et donc l'enfance autrement. Pour parler de la place de Maria Montessori dans cette galaxie de l'éducation nouvelle et dans ses congrès, qu'est-ce qu'elle y fait, elle, dans ses congrès? Comment elle s'exprime? Elle n'y va pas toujours, d'ailleurs. Comment elle noue ou pas des relations avec les autres pédagogues à travers ces événements qui vont se dérouler jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale?
Ce qui est pas du tout paradoxal, c'est qu'en vérité, c'est vrai que Maria Montessori perçoit immédiatement l'importance d'une formation, déjà, de faire comprendre sa pédagogie et puis de la diffuser. Et donc de la diffuser à une échelle, on va dire, internationale. Elle est fortement aidée par le mouvement, tous les historiens anglais l'ont montré très fortement, par le mouvement théosophe, qui cherche justement une pédagogie et qui trouve que la pédagogie Montessori leur convient très bien. Donc on voit une espèce de symbiose, vraiment, entre le mouvement théosophe anglo-saxon, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que...
Anglo-américain.
Anglo-américain, hein, voilà. Tout à fait, parce que c'est un mouvement qui est très très fort, et en Australie, en Afrique du Sud, etc. Et donc on voit que déjà, c'est un moyen de diffusion. Et ce qui fait que ces congrès sont des moments forts, hein, très clairement, tout à fait, hein, pendant 20 ans, ces congrès sont des moments où on se retrouve, hein, faut penser qu'on n'a pas le moyen de connexion comme aujourd'hui, donc se retrouver dans ces congrès, c'est un moment fort, et on le voit bien. Et Maria Montessori s'en sert, clairement, elle n'y va pas toujours, elle fait faux bond, d'ailleurs on voit très bien, elle amène toujours quand même quelqu'un qui est la représentante ou le représentant officiel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les officieux, mais officiels. Donc, elle veut que quelqu'un donne un peu l'orthodoxie de sa pédagogie. Et puis, elle fera d'autres congrès. C'est vrai que c'est souvent l'image qu'on a, hein. C'est vrai qu'elle va, elle va énormément faire de conférences. Elle va énormément diffuser ici ce réseau. Donc, elle se sert, entre guillemets, un petit peu aussi de ses congrès. Elle y va vraiment pas tout le temps et même très peu. Et puis, elle sait aussi que c'est là qu'elle est attaquée. C'est pas quelqu'un qui est franchement dans le débat. Il faut être clair que ses congrès, quand on parle 15 jours, ça discute, ça discute même ferme, hein, on voit bien. Certains aiment bien ça, mais quand elle y va, elle sait que ça peut cogner. Ça peut cogner fort. Alors, on le sait sur Freinet, mais aussi avec Neil. Neil, qui lui, l'attaque frontalement.
Alexander S. Neil, qui est l'auteur de Libres enfants de Summer Hill, et c'est pas vraiment les mêmes options pédagogiques que
non,
Maria Montessori.
Il attaque immédiatement, par exemple, comme il sait qu'elle est catholique. Voilà, il peut demander à sa représentante clairement qu'est-ce que l'éducation sexuelle pour vous. Alors évidemment, là, ça passe mal. C'est des attaques ici assez fortes hein, qui sont prises en compte. Freinet reproche qu'il y a un côté religieux. Il dit, il n'y a pas de bruit, moi ça me gêne que ces enfants soient si silencieux. Est-ce que derrière, comment ça se fait? Donc on voit bien que les représentants montessoriens qui vont dans ces congrès, ça rigole pas complètement. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça fait avancer aussi l'éducation nouvelle. Et elle est à la fois dans ses congrès, enfin on va dire que même si elle n'est pas là, ses représentants sont là, mais elle a aussi son propre réseau. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est en parallèle.
Et Maria Montessori fait de véritables tournées, c'est ce qu'elle a fait aux États-Unis dès les années 10 et les années 20. Est-ce que d'autres pédagogues font ça?
Alors certains ont cherché à le faire. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur De Croly, il l'a fait en Amérique latine, il a fait une grande tournée, entre guillemets, en Colombie, etc., en Espagne aussi. Mais ils n'ont pas eu la même force pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que Maria Montessori, elle pense immédiatement, j'allais dire, formation. C'est-à-dire qu'elle diffuse, et puis les enseignantes, elle vérifie aussi que les enseignants suivent bien sa pédagogie. Chez De Croly, c'est voilà, on se balade, on va voir, j'explique certaines choses, mais c'est beaucoup plus souple, on va dire, hein, comme ça. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis, je pense que là, c'est vrai qu'il y a un petit côté, non pas visionnaire, mais elle comprend aussi que pas la communication, parce que ça serait pas très gentil, mais on va dire la diffusion et l'essaimage d'une pédagogie, il y a rien de plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne. L'enseignant comprenne en face ce qu'il fait, il faut qu'il donne sens. Et c'est vrai qu'en permanence, il faut expliquer concrètement ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on a une pratique ou un outil pédagogique que tout le monde sait s'en servir. D'ailleurs, on va dire qu'aujourd'hui, c'est bien un souci. C'est qu'on a plein d'écoles qui peuvent s'appeler Montessori. On n'est pas sûr qu'ils fassent du Montessori. Et c'est bien un problème pour tout le monde.
Ça aussi, on va y revenir dans cette série. Je peux vous demander de me lire un poème, pas n'importe lequel, un poème d'une des grandes figures de l'éducation nouvelle, Adolphe Ferrière.
Et sur les indications du diable, on créa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'y ait aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec les idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner, on le fit mémoriser. Il voudrait chercher la science, on la lui servit toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors, les enfants apprirent ce qu'ils n'eurent jamais appris sans cela. Ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir.
Alors, l'éducation nouvelle contient une critique énorme de l'éducation traditionnelle. Évidemment, on dit même que c'est un mouvement de transformation sociale. Ça, c'est le regard des historiens d'aujourd'hui. Mais il y a deux manières, en fait, de penser cette transformation. Changer la société et changer l'école dans le même mouvement ou transformer l'éducation pour peut-être transformer la société. Qu'est-ce qu'elle en pense, Maria Montessori? Enfin, moi, j'ai un peu la réponse. Sylvain Vagnon.
Dans ce qu'on voit là, dans ce que dit Ferrière, hein, c'est aussi effectivement une radicalité. C'est-à-dire qu'on pourrait, c'est presque manichéen. Hein, c'est-à-dire il y a l'école traditionnelle et il y a l'éducation nouvelle. Ce qui est vrai, c'est que les finalités sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que je pense que là, on voit bien qu'il ne parle pas de technique. Il parle de finalité et donner du sens. Là où il y a un désaccord, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord sur les finalités qu'on peut donner. C'est vrai que pour Maria Montessori, et c'est d'ailleurs, on va dire que historiquement, bon, il y a un côté facile de l'histoire, c'est qu'on regarde quand même a posteriori, hein, on s'aperçoit que la pédagogie Montessori est appliquée, ou elle l'a fait appliquer, ou elle a laissé appliquer, dans des gouvernements très différents, on va dire totalitaires, ou démocratique.
Dont celui de Mussolini, évidemment, on en a parlé.
Voilà. Ça veut dire qu'elle sous-estime, enfin elle estime en tout cas, pardon, que c'est une pédagogie qui pourrait être appliquée. On peut discuter de tout ça, et je pense que c'est discutable, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle met du temps. J'allais dire que chez Freinet, par exemple, ou chez De Croly, c'est impossible. C'est-à-dire que pour eux, l'idée de transformation sociale est extrêmement forte, et donc, par exemple, les notions d'entraide, les notions de conseil démocratique font que, de toute façon, l'optique est véritablement de transformer aussi la société une société démocratique, on va dire, et que leur pédagogie n'est absolument pas applicable dans un régime de dictature. C'est quand même un clivage très fort, et d'ailleurs on le voit ce clivage dans un congrès qui est celui de 1932 à Nice, au moment évidemment on est quand même à la marche à la guerre, donc on voit bien que le fascisme italien se structure et le fascisme et le nazisme commencent à arriver justement presque au pouvoir. Donc on voit bien que là les pédagogues, ils sont obligés de se positionner hein, ici par rapport à un contexte politique. Et c'est vrai que là Maria Montessori, on va dire, ne met pas ou sous-estime en tout cas l'influence politique sur une pédagogie.
Sous-estime gravement, puisque c'est une tâche, évidemment, qui reste dans sa biographie. Hein, on en aura parlé, ses lettres à Mussolini, et puis la recherche qu'elle a eue avec son fils Mario Montessori, de conserver ses écoles jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça n'a plus été possible, mais pas de son fait, en fait. Du fait de Mussolini, s'il fallait le redire. Alors, ce qui est intéressant avec l'éducation nouvelle, c'est que les recherches sur le sujet sont assez récentes. Sylvain Vagnon.
Alors oui, elles sont assez récentes parce qu'elles ont été pendant très longtemps ont été le fait de militants de l'éducation nouvelle qui ont un peu, qui avaient besoin, et d'ailleurs c'est du point de vue historique c'est quand même important, d'avoir une espèce de ligne, de se souvenir aussi des figures, etc. Et ce qui fait que de façon, on va dire quand même depuis quelques décennies, on va dire en France, hein, mais on a effectivement des recherches, on va dire plus historiques, plus scientifiques, qui essaye de décortiquer le rôle justement militant véritablement hein, et de ce qui est un peu la réalité. L'écart entre le discours et les pratiques sont quand même importantes.
Donc depuis les années 80, est-ce que ces recherches arrivent à nous dire ce qui infuse dans l'éducation nationale, par exemple, si on parle du cas de la France ?
Oui, parce que ce qu'il y a, c'est que l'éducation, on va dire, c'est d'ailleurs une discussion entre historiens. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est une bande témoin, que l'éducation nouvelle, ben voilà, c'est très sympathique, mais c'est au début du XXe siècle, point barre. Ou on peut estimer que c'est un courant vivant jusqu'à aujourd'hui qui a des résurgences, qui a eu, qui est effectivement dans
c'est
l'éducation.
C'est le cas pour Montessori.
C'est le cas pour Montessori, c'est le cas pour De Croly, où il y a quand même une école publique à Saint-Mandé en France, mais c'est aussi le cas pour énormément de principes qui sont ceux de l'éducation nouvelle. La difficulté, c'est pas parce qu'on a des outils d'éducation nouvelle dans un système public que ça devient exactement de l'éducation nouvelle. C'est là où il faut faire attention quand même un petit peu là-dessus. Il y a un sens aussi qui est donné à certaines pratiques. Et si on perd le sens de certaines pratiques, on se retrouve avec quelque chose, on va dire, de très traditionnel.
Malgré des méthodes qui sont celles, par exemple, de Montessori. Mais Montessori, dans le public, on en parlera dans l'épisode 5. Alors, on verra si on y dit la même chose que vous. Ça intéresse les étudiants d'aujourd'hui, ces mouvements, les étudiants en sciences de l'éducation ? Maria oui. Montessori, par exemple, ça les intéresse ?
Ce qui les intéresse, c'est vrai que c'est les pédagogies alternatives. Je pense que le terme aussi est assez percutant. Donc, ça donne vraiment une idée aussi de radicalité. Je pense qu'on sait aussi quelque chose de nouveau, c'est que on ne sait pas comment va être notre société dans 10-15 ans. Je pense que ça change radicalement aussi les choses dans l'éducation. Donc on sent qu'il va falloir bouger énormément, il va falloir changer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la notion d'école dehors, par exemple, se développe alors que dans le texte de Ferrière que l'on a lu, on voit bien que c'est l'enfant aime la nature, on le parca dans des salles. Donc on voit bien que c'est aussi une idée assez forte. Donc oui, il y a aujourd'hui effectivement une envie des étudiants, mais j'allais dire aussi des parents. On voit bien que s'intéresser à l'éducation de ses enfants, c'est aussi une clé pour l'avenir.
Merci beaucoup Sylvain Vagnon. Merci à Grégory Wallon qui était à la prise de son, à Françoise Le Floch à la réalisation et à Laura Dutèche-Pérez qui m'a aidé à préparer cette émission.